On parle de maisons, Claude, ce matin.
Des millions de maisons, et belles encore, souvent au soleil du sud des États-Unis, construites dans des communautés qui furent inventées pour le confort des riches et vieux résidents avec golf et piscine. On parle de 21 millions de maisons qui vont être mises sur le marché dans les 20 ans à venir, les maisons d'une génération qui commence à mourir. Les baby-boomers, nés dans l'après-seconde guerre mondiale, s'en vont disparaître et laissent derrière eux 21 millions de maisons. Mais ces maisons, qui en voudra? C'est dans l'opinion, la traduction d'un article du Wall Street Journal qui constate l'extinction d'une espèce culturelle et envisage les conséquences économiques. On m'annonce alors une Amérique de maisons grandes devenue inutile, car les générations qui succèdent aux baby-boomers n'ont ni les moyens ni le goût de ces résidences où l'on doit se déplacer en VTC. On veut désormais des villes ou bien des banlieues où l'on marche à pied pour faire ses courses et où l'on capte puissamment le Wi-Fi. Alors, me dit le Wall Street Journal, vont souffrir la Floride, le Nevada, l'Arizona. Moins de résidents, moins de taxes et les routes qu'on ne réparera plus. Mais dans le Midwest, où déjà l'immobilier a baissé, des villes vont revivre. Voilà bien l'Amérique, où le marché s'adapte. Et d'un article économique, je vois le cycle de la vie. Allons. Chez nous aussi, l'immobilier raconte la vie. À Nancy, dans des quartiers embourgeoisés, le marché s'envole, me dit l'Est républicain. Mais juste à côté, dans la Meuse, la belle Saint-Miel s'est effondrée sur elle-même, dit un investisseur immobilier déconfit. On y trouve de belles demeures à 100 000 euros l'achat, mais autant de travaux. Notre investisseur a baissé le prix de location de ses appartements. Ses locataires sont aux aides sociales. C'est comme ça, dit-il. Le Parisien s'inquiète de voir tant de jeunes au Resto du Cœur. Libération, d'un sondage, nous dit que pour les Français, le président Macron ne comprend pas la réalité des difficultés sociales. Le Figaro, effet de tenaille, traite lui poliment le pouvoir de menteur. Le gouvernement présente sa réforme des retraites comme favorable aux femmes. Faux, dit le Figaro, les mères de famille vont connaître une chute de pension. Jeu de mots qu'a contesté à l'instant sous notre antenne Marlène Schiappa. Marc Landré, dans le Figaro toujours, caustique chroniqueur économique, s'en prend lui à quelques ministres sous ce titre de l'art de tordre la vérité pour vanter son bilan. Gérald Darmanin, pourtant transfuge de la droite, oublie que Nicolas Sarkozy, avant Emmanuel Macron, avait attaqué le dossier des retraites. Julien de Normandie dit que sa génération n'a jamais vu un taux de chômage tous les 9%. Eh bien, dit Landré, nous avons connu depuis l'an 2000 35 trimestres de chômage sous les 9 points. Nicole Pénicaud vante les 580 emplois créés par jour sur son quinquennat. Certes, mais la reprise en termes d'emploi date de 2015. La causticité se nourrit de faits.
Un autre journaliste devient une référence.
Et c'est une autre causticité, le même métier mais le verre à temps. Je ne parle pas ici d'un chroniqueur libéral, mais d'un révolté souriant anarchiste, ancien punk, c'est vous dire, mais qui devient un maître pour de jeunes confrères contestataires aux aguets face aux abus supposés de l'État. Street Press, qui incarne cette sensibilité, fait donc le portrait de David Dufresne, ce journaliste indépendant qui recense les violences policières contre les gilets jaunes. Son travail est reconnu, d'autres médias, Le Monde encore ce matin à propos de manifestations tabassés dans un fast-food, savent dire les débordements de policiers débordés. Mais Dufresne a une aura particulière et dans Street Press se joue une transmission. On voit Dufresne emmener un jeune confrère là où en 1986, l'étudiant Malik Oussekine avait été battu par des policiers à en mourir. Sa vocation à Dufresne est née quand il était adolescent. À Poitiers, jeune punk donc, un jour convoqué au commissariat, il avait eu peur et adulte a entrepris, dit-il, de surveiller ceux qui nous surveillent. À Angers, des femmes ont vu leur passé ressurgir, le Courrier de l'Ouest les raconte, c'est saisissant. Elles étaient, il y a 50 ans, des gamines victimes de violences recueillies par les religieuses de la communauté du Bon Pasteur, mais dans cette communauté, victimes à nouveau de coups, de mépris, de bigoterie. Elles racontent ces examens gynécologiques qu'un médecin pratiquait sur elles pour vérifier leur virginité. Elles racontent une nonne tapant la tête d'une fille sur les lavabos. Elles racontent une fillette violée à 11 ans mais traitée de folle. Elle faisait pour les sœurs des travaux de broderie et n'était pas payée. Et si elle parle aussi clairement aujourd'hui, c'est qu'elle ne supporte pas que la communauté du Bon Pasteur ait ouvert un musée à sa gloire à Angers. Il faudrait l'appeler, disent-elles, le musée de l'esclavage infantile. Les sœurs d'aujourd'hui sont désolées.
On parle bijoux, non ?
On lit ceci.
Pardon, excusez-moi, Claude.
On lit ceci. L'émotion de ces bonnes sœurs. On lit donc les anciennes victimes des bonnes sœurs à Angers, et en même temps, ce matin, on lit des scrupules catholiques quand le pape interpelle la planète en récusant avec force l'arme nucléaire. Sur le site de l'Opinion, Jean-Dominique Merchet parle de l'embarras que pourront ressortir des officiers français jusque dans nos sous-marins nucléaires où se tiennent, dit-il, des cérémonies catholiques. La Croix nous raconte les affres d'étudiants en médecine catholiques pratiquants qui choisissent la gynécologie et doivent se dérober quand on leur propose de pratiquer l'avortement qu'ils refusent. plus.
Et on parle de petits bijoux pour finir.
À la une des échos, LVMH triomphe, qui a racheté Tiffany's, le joaillier américain. Audrey Byrne semble pensive. Bernard Arnault pourrait devenir, dit Le Monde, l'homme le plus riche du monde, le patron de LVMH. Il amène à la France une icône d'Amérique, il le dit au Figaro qui le taquine un peu. Est-ce que Tiffany's est vraiment une marque de luxe? Le caustique, décidément. Il est d'autres entreprises et d'autres bonheurs de France. Au Mans, dit Le Maine Libre, Justine, 24 ans, a gagné 500 000 euros dans une loterie gratuite qu'on installe sur son téléphone portable. En a-t-elle vu des publicités avant de devenir riche et de recevoir un chèque offert par Kev Adams, remis par Kev Adams? Enfin, l'Est républicain me dit les joies de la pêche à la ligne, mais attention, la pêche à la main qui permet de nettoyer les rivières de la ferraille accumulée. Attention, cela dit, à ne pas déranger les œufs des brochets.
Merci Claude pour cette revue de presse.